Bonsoir à tout le monde. Gloire à Dieu. On va regarder un verset en 1 Samuel 18, juste pour une minute. La semaine dernière, je pensais dans mon cœur avec amour à Pasteur Jim Morrison. Je voulais juste l'honorer parce qu'on l'aime tellement. Pendant des années, il est venu tout le temps, peut-être pendant 40 ans. Et ensuite, je pensais à trois autres frères qui ne sont pas avec nous ici, mais qui sont fidèles et qui nous aiment. C'est Pasteur Jorma Immonen, Pasteur Carl Silva et Pasteur Gromov à Saint-Pétersbourg en Russie. Vous savez, quand quelqu'un est dans votre vie, dans votre cœur, c'est un don, c'est un trésor. Et ces hommes ont suivi Christ de tout leur cœur. Et je me rappelle, on connaît tous cette portion, 1 Samuel 18, verset 1. Et il arriva, comme il achevait de parler à Saül, c'est David, il parlait à Saül, comme il achevait de parler à Saül, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David. Dans une image, vous avez Saül et David qui parlent et Jonathan est là, mais Jonathan a entendu quelque chose que Saül n'entendait pas. Jonathan a entendu quelque chose de la part de David et son cœur s'est lié à lui. D'une certaine manière, il aurait pu dire, c'est lui, c'est l'homme. C'est le gars avec qui je veux être. C'est le gars que je respecte et que je veux suivre, à qui je veux faire confiance. C'est le prochain roi d'Israël. Jonathan a eu cette expérience juste comme nous, quand on entend l'Évangile. Et quand on entend l'Évangile, on sait que nos cœurs sont liés à Dieu. L'Esprit de Dieu vient en nous et nous savons ce que ça signifie. Pasteur Morrison est venu en Finlande. On est allé à l'Institut biblique ensemble. Je crois que j'étais une année avant lui. On est allé en Finlande. Il a suivi ensuite avec Don. Il a servi là-bas comme un grand ami. Toujours quelqu'un de loyal, à qui on pouvait faire confiance, intègre, un grand ami, quelqu'un d'engagé, très honnête, avec de l'humilité, de la modestie, de la douceur, toutes ces grandes vertus. J'ai créé cet après-midi la récompense Jonathan David et je me suis dit que cette récompense allait bien à Pasteur Morrison, Pasteur Jorma Immonen, Pasteur Gromov et Pasteur Carl Silva. On aime beaucoup ces hommes. Merci. Merci Seigneur. Donc on va écrire ça et on va le leur envoyer. Et bien sûr, le but, c'est de leur dire à quel point ça signifie pour nous, pour nos cœurs. Merci, messieurs. Vous nous avez enseigné quelque chose. Vous nous avez aimés et on vous aime. Merci. Amen. Troisièmement, il y a la vie du corps. Philippiens 1, 7. Je vous ai dans mon cœur. Il y a la vie du corps dans leur cœur. Ensuite, il y a l'Évangile. Et c'est important. Pour un pasteur. L'Évangile est dans leur cœur. Ensuite, il y a la redevabilité et la soumission dans leur cœur. La redevabilité et la soumission dans leur cœur. Ceux qui sont mariés, il y a votre épouse dans votre cœur. Amen. Ceux qui sont célibataires, on va prier. En ce qui concerne les richesses de la grâce, ne vous laissez pas écarter par les richesses, par les finances. Si j'ai les richesses de la grâce dans mon cœur, alors les finances ne sont plus un problème. Il y a un but éternel, pas juste temporel dans votre cœur. Un but éternel dans votre cœur. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il y a l'Esprit de Dieu dans vos cœurs. Il y a du fruit. Dans ma vie personnellement, le fruit d'être un disciple et de faire des disciples et de gagner les gens. Un fruit dans leur cœur. Et quand quelque chose est dans le cœur, et vous connaissez la définition, ça motive mes pensées, mes buts, c'est ce qui détermine tout mon comportement, mon centre de communication. Toutes ces choses sont dans le cœur. Grâce à Dieu, de ce que vous étiez esclave du péché, mais de ce que vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Levez-vous, s'il vous plaît, alors qu'on va prier pour eux et leur imposer les mains. Levez les mains vers eux, parce que cette ordination est devant l'Église, devant les leaders, devant les anges. L'ennemi le voit. C'est une ordination. Père, on te remercie pour ces hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Ils ont obéi de cœur. Seigneur, merci. Grâce à Dieu. Oui, ils étaient et nous avons été esclaves du péché. Mais nous avons obéi de cœur à la forme de doctrine qui nous a été enseignée. Nous prions, Seigneur, pour ces hommes. Nous te remercions, nous te prions pour ta protection. Un pasteur doit garder les gens, mais je te prie qu'ils soient protégés. Protège-les, délivre-les du mal. Que ta présence soit expérimentale dans leur vie. Oui, Seigneur. Que les promesses de Dieu soient oui et amen dans leur vie. Oui, dans leur vie. Que la parole de Dieu demeure en eux richement quand ils ouvrent les Écritures. La parole de Dieu, le corps de Christ, ceux qui sont mariés, Seigneur, qu'ils puissent vraiment voir cette précieuse personne dans leur cœur et dans leur mariage. Couvre-les, Seigneur. Qu'il n'y ait aucune hérésie, aucune mauvaise doctrine qui soit prêchée, qu'ils soient des évangélistes dans leur cœur, qu'ils aiment le corps, que le corps les aime. Donne-leur une provision pour qu'ils n'aient pas partir sur de mauvaises voies, mais qu'ils aient les richesses de la grâce. Seigneur, protège-les, aide-les. Guide-les, conduis-les, remplis-les, change-les, utilise-les au sein de GGWO. On te remercie tellement, Seigneur, parce que ce sont des hommes de Dieu. La Bible dit, j'ai trouvé David, l'homme d'Isaïe, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Des hommes de Dieu qui reçoivent du cœur de Dieu de manière dépendante et qui accomplissent toute la parole de Dieu. On te prie que ces hommes accomplissent toute ta parole. Bénis-les, oins-les, touche-les, sois avec eux. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever encore une fois? On va prêcher pendant un moment ici. Donc je veux que vous soyez réveillés. J'ai eu une rencontre avec les Hongrois cet après-midi. On a passé un bon moment. Ça, c'est une assiette en carton avec des notes dessus. Donc je leur ai demandé de quoi ils veulent que je parle ce soir au message. Parler au-dessus de la politique, vivre au-delà, au-dessus de la politique. Est-ce qu'on peut s'identifier à ça? Vivre au-dessus, au-delà de la politique. La prière, qu'il n'y ait pas d'air entre nous. Je vais m'arrêter un peu là. Qu'il n'y ait pas d'air entre nous. Vous savez ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. L'œuvre accomplie, l'amour, parler à un poisson, des imaginations pieuses, qu'est-ce que c'est qu'une bonne imagination et une mauvaise, et ensuite les pères, les jeunes gens et les enfants. Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez le mettre en quelques mots? Qu'est-ce que vous avez appris ici cette semaine? Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit? Prenez juste quelques minutes et essayez de penser à une chose que vous avez appris. Bon, le message sur les jeans skinny, on va s'en rappeler longtemps. Qu'est-ce que vous avez entendu cette semaine? Regardez le thème « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Est-ce qu'on croit ça? Oui, je crois qu'on a compris ça. On va y penser, on en a parlé et on le croit. Dieu est bon avec nous, n'est-ce pas? Il a été tellement bon pour nous. Il nous parle, il nous aide. Et est-ce qu'il nous aime? Donc prenez une minute pour parler à votre voisin de ce que vous avez appris cette semaine. Posez-leur la question, vous avez une ou deux minutes. Allez-y, vous pouvez rester debout ou vous effondrer dans votre chaise, comme vous voulez. Qu'avez-vous appris cette semaine? Avant de commencer le message, j'aimerais juste que Pasteur Obeid vienne. Pasteur Obeid est un pasteur de JGWO à Toronto, au Canada. On a eu une bonne conversation hier. Il travaille à Toronto pour atteindre les musulmans, pour toucher les musulmans dans la ville de Toronto. Et c'est vraiment, il a vraiment une vision pour ça. Et j'apprécie vraiment son témoignage, sa vie, son ministère et ce qu'il fait. Et il m'a dit, si on a des églises GGWO dans les États-Unis qui veulent avoir une évangélisation dirigée vers les musulmans, je suis disponible pour les aider. Il peut venir comme orateur, vous pouvez faire de la pub dans votre ville. Par exemple, on peut le faire à Baltimore. On peut faire de la pub pour ça. On peut aussi le faire dans le Michigan ou à Houston, au Texas, pour pouvoir toucher les musulmans et apprendre à toucher ces précieuses personnes. Il est à fond dedans. Il veut vraiment nos prières, notre amour, notre soutien et notre encouragement. Et il est disponible. Donc gardez-le dans vos pensées, dans vos prières, ok? Merci, pasteur. J'ai tellement de choses à dire ce soir, tellement de choses à prêcher. Je vais essayer de réduire ça à quelque chose de très simple. J'ai des diagrammes dans ma pensée, des tas de choses. J'ai celui-là, ce que l'amour est et ce qu'il n'est pas. Ça, c'est d'après 1 Corinthiens 13. Ce que l'amour est. La joie est connectée à l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Christ est venu dans le monde. Et il a dit pour qu'on s'aime les uns les autres. Il est venu pour qu'on s'aime, pour qu'on aime. Il semble que c'est la seule chose que le diable ne peut pas faire. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il ne peut pas créer. Il ne peut pas prier, il ne peut pas servir, il ne peut pas donner. Il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. 1 Corinthiens 13. Même si je parle avec la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, Même si je donne mon corps pour être brûlé, si je donne tous mes biens pour nourrir les pauvres, même si je fais transporter des montagnes par ma foi et que je connais les mystères mais que je n'ai pas l'amour, on peut dire simplement « Dieu est amour, le diable ne l'est pas ». Quand vous et moi, on aime de cette manière, alors les gens voient Dieu. Et c'est enthousiasmant. Deuxième phrase, l'amour est connecté aux choses qui ont du sens. C'est important. Ce qui a du sens, regardez cette liste ici. Ce que l'amour est, à gauche, ce qu'il n'est pas est très commun pour nous, à droite. L'envie, se vanter en public, je me vante moi-même. S'enfler d'orgueil, c'est intérieur. C'est penser au sujet de moi de manière trop haute, alors que me vanter, c'est faire ma promotion publiquement. Et bien sûr, on aime Jésus-Christ parce qu'on ne voit pas ça chez lui. Au contraire, on voit de l'humilité. Vous savez, dans les temps anciens, l'humilité n'était pas considérée comme une vertu. C'est un peu comme dans notre culture aujourd'hui. L'humilité n'est pas une vertu. Ça n'est plus une vertu. On n'en parle pas. Si vous voulez surprendre quelqu'un dans un café, dites juste le mot humilité. Ils vont vous regarder deux fois. Quoi ? L'humilité, c'est un beau mot. De quoi est-ce qu'on parle ? De force. De quoi parlent les orateurs qui essayent de motiver les gens dans le monde du travail ? Ils parlent de force, d'intelligence, de puissance, d'influence. Ça, c'est les choses dont les hommes parlent et les choses qu'ils aiment. Mais être personne, c'est pas une vertu dans notre culture. De perdre, être un perdant, être bas, comme Christ, pas élevé. Et quand Christ était en bas, comme ce tapis-là, je peux m'essuyer les pieds sur le tapis, comme ça. Quand Jésus était si bas, en lui, pourtant, il y avait Dieu. Et là, on a une image d'un paradoxe apparent. Dieu est tellement grand et en même temps, il peut être traité comme rien, comme quelque chose qu'on jette. Mais même quand on le jette, il nous aime. Même quand on le jette, il est tellement sage. Même quand on le jette, il est tellement fort. Et c'est ce que nous suivons. C'est ce que nous recherchons. C'est ce qui a du sens. L'amour est connecté à ce qui a du sens. J'ai noté quelques lignes sur le bonheur des méchants. Psaume 17, verset 14. Le bonheur des méchants est limité. Vous savez, les piles d'argent, la renommée, la fortune, la popularité, le succès. Job 20, verset 5. Tout ça, c'est court. Et en Luc, c'est incertain. Leur bonheur est incertain parce qu'il est connecté avec quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Et si vous regardez la liste, là, à droite, c'est la vie qui a le moins de sens. Parler des gens, penser du mal des gens, projeter ses idées, ses opinions sur les autres, se réjouir dans l'iniquité, dans le meurtre, dans l'adultère, lire les livres, regarder les programmes de télé sur le meurtre, sur l'égoïsme, la tromperie et tout ça. Si vous faites ça, ensuite vous allez au lit, qu'est-ce qui vous reste ? Ça n'a aucun sens. Est-ce que la jalousie a du sens ? Non, c'est fou. Donc ma joie est connectée à l'amour et l'amour est connecté à ce qui a du sens, à ce qui est important. Qu'est-ce que l'amour ? Il y a un chapitre dans l'évangile de Jean dans lequel j'aimerais que vous regardiez. Ça peut nous aider à penser à ça. Mais avant, je veux être sûr qu'on a bien compris ça. Je ne veux pas aller trop vite. Parce qu'on a dit l'autre soir que quand on était enfant, on pensait et on parlait comme des enfants. On pensait comme des enfants. Il y avait une forme de ténèbres là. Je vois comme à travers un verre, obscurément. Je ne peux pas comprendre les choses exactement, cette chose qui s'appelle la vie. C'est un mystère. Qu'est-ce qui a du sens ? Dis-moi, pasteur, qu'est-ce qui a du sens ? Et on dit, Jésus sait ce qui a du sens. Il a vécu la vie qui a eu le plus de sens. Écoutons ce qu'il a dit. Et il nous dit qu'on a un cœur qui est malade parce qu'il est rempli de toutes les choses qui sont sur la partie droite de la liste. Nos cœurs sont remplis du fait de chercher les choses pour nous-mêmes. On a tendance à rester des enfants dans la grande maison qui est appelée l'univers, qui s'appelle l'univers. On essaye de rassembler nos propres choses pour nous. Et vous savez ce qui a du sens pour moi ? Mon argent, mon temps, mes enfants, ma maison, ma vie, ma carrière. C'est ça qui a du sens pour moi. Et Jésus dit, mais est-ce que tu veux avoir la joie ? Parce que si ta cible n'est pas la bonne, alors tu risques de souffrir. Et une des façons dont tu vas souffrir, c'est que tu vas peut-être arriver à faire ce que tu veux, mais ta cible ne sera pas la bonne. Tu auras tes trucs, mais est-ce que c'est de l'amour ? C'est bon, n'est-ce pas ? Ça, c'est quelque chose d'intéressant à quoi penser. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant et j'étais du côté droit, là. J'étais facilement provoquée, facilement offensée. Vous voyez ? Facilement offensée. Oh, tu m'as offensée. Je ne peux pas croire que tu m'as traitée de cette manière. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Je ne peux pas croire ce que tu m'as dit. Facilement offensée. Je suis tellement désolée pour les gens dont le monde est tellement dépourvu de sens. Comment ils peuvent avoir la joie ? Si leur monde est dépourvu de sens, s'ils n'ont pas l'amour, ils ne peuvent pas pardonner. Ils ne peuvent pas dire, peu importe, c'est pas grave. Oh, tu veux mon manteau ? Ok, le voilà. Voilà ma chemise. Vas-y, c'est pas un problème. J'ai trouvé quelque chose qui a beaucoup de sens dans ma vie. Et je dois être honnête, parfois je perds ça et puis je le retrouve. Parfois je perds Christ et tout ça. Pas littéralement en termes de salut, mais parfois je le perds dans mon expérience. Je vois à travers un verre obscurément. Mais il y aura un jour, vous connaissez ce chant, il y aura un jour, il y a un jour qui arrive où on verra plus clairement. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va découvrir le sens des choses. Ce sens que Dieu a préparé pour nous. Pour le moment, on essaye d'atteindre le dessus du frigo. On essaye de mettre la main dessus. Et la meilleure façon de mettre la main dessus, c'est en étant très tranquille, très calme dans votre vie. Être capable de vous asseoir dans une église comme celle-ci et recevoir la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit parle à votre cœur et étrangement réchauffe votre cœur. Ayez vos pensées occupées de quelque chose de plus que vous-même. Vous savez, dans notre pays, il y a Walmart, Target, on a le périphérique et des restaurants, tout ce qui se passe ici, des clubs de golf, des clubs de remise en forme, toutes sortes de programmes partout. Et on peut courir partout. Et parfois, on doit s'arrêter et dire qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui importe? J'ai perdu ce qui a du sens dans ma vie. J'ai perdu ce qui a de la valeur pour moi. Oh, tu sais pas, il y a une nouvelle télé. Elle est grande, elle fait 420 mètres. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire que tu puisses avoir. Ou ton équipe de football américain va gagner le championnat, va gagner le Super Bowl. Ça, ça a du sens, les gars. Vraiment? Où dans la Bible? Écoutez ça. Où dans la Bible? Dieu soulève le voile et nous permet d'entendre une prière qui est dite par Jésus-Christ, où Jésus-Christ dit au Père, « Père, je l'ai fait. J'ai donné du sens à leur vie. Père, tu m'entends? Je leur ai amené ce qui était bon. J'ai réussi, j'ai accompli. Père, j'ai réussi. Je leur ai donné et ils ont compris. Et le monde ne l'a pas compris, mais eux, ils ont compris. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? En Jean 17. Regardez avec moi, s'il vous plaît, en Jean 17. C'est un chapitre où on entend quelque chose qui ébranle notre monde profondément. Jean chapitre 17, verset 1. Jésus dit ces choses et leva ses yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. » Quoi? J'ai la vie éternelle? Il y a un mot là, verset 3, c'est ici la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Qu'on connaisse Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, verset 4. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai fait le travail dur, je les ai sauvés, je les ai justifiés, je les ai sanctifiés, je les ai glorifiés, je les ai élus, ils ont reçu, ils ont cru. Verset 5. Et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Seigneur, je reviens à la maison, j'ai réussi, je l'ai fait. J'ai amené dans ce monde fou, dans ce monde vide. On est dans le monde en train de courir comme des poulets à qui on a coupé la tête, qui parle pendant des milliers d'années de choses qui n'ont aucune importance, aucune valeur. Ces choses-là, elles pâlissent. Quelle importance elles ont? Qu'importe si je suis mon pauvre moi pécheur et que je vis une vie de vanité, où est ma joie? Il n'y a pas de joie. Il y a éventuellement un bonheur avec les méchants, mais ils passent comme la poussière. Ils ont leur fête. Et tristement, il peut y avoir un message de la part de Dieu que ce soir-là, cet adolescent est mort dans un tragique accident de voiture. Et les familles pleurent, elles ont le cœur brisé. Ou le jeune est rentré à la maison ivre. Et le lendemain, il y a des funérailles pour un jeune de 19 ans. Pas de sens. Futile. Notre chair. Jésus a dit, il est venu dans notre monde et il a dit, je l'ai changé. J'ai accompli l'œuvre, Père. Maintenant, je reviens à toi. Mais tu envoies le Saint-Esprit sur eux et ces gens vont apprendre ce qu'est l'amour. Ils vont trébucher et tomber, mais ils vont avoir faim. Parce que tout ce qui vit a faim. Et quand vous êtes né de nouveau, vous avez faim. Et c'est pour ça que les églises grandissent d'ailleurs. Parce que les gens se convertissent et ils ont faim. Et c'est un mystère sur lequel on ne peut pas mettre le doigt parce que ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Dieu sauve les gens. Il les change. Il les enseigne. Verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Je pensais, vous connaissez l'histoire, sauvé à Boston, dans le Maine, il y a de nombreuses années, vous avez été converti en Afrique ou en Inde, vous connaissez l'histoire. Et personne n'a eu d'influence sur vous, c'est Dieu qui vous a influencé. Dieu est entré dans votre esprit. Et bien sûr, il y a des moments où on grandit lentement, comme un gland grandit dans un chêne. Parfois, c'est tellement lent qu'on ne peut pas le voir. Mais il y a des jours où on dit, je le vois, je comprends. Ma vie a du sens. Mes circonstances ne sont pas la base de la signification de ma vie. C'est Jésus-Christ qui me donne du sens à ma vie. Et maintenant, ce qui m'arrive, c'est une chose. Mais Dieu a du sens. Et il le dit ici dans sa prière. Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Vous vous rappelez, quand vous gardez la parole de Dieu, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, mais vous vous contentez de garder la parole de Dieu. Je me rappelle être dans une voiture dans le Maine il y a longtemps, j'étais jeune. Je revenais d'une réunion là-bas. Je regardais par la fenêtre et je me demandais ce que je faisais, où j'allais. Et j'ai décidé dans mon cœur, je ne sais pas ce que je fais et je ne sais pas où je vais. Mais dans mon cœur, je veux garder sa parole. Et ça a du sens pour moi, de garder la parole. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais c'est le meilleur outil de navigation pour le cœur humain. Vous savez, un poisson sait nager de l'Oregon jusqu'au Japon. Le salmon va là-bas et il revient du Japon, il retourne en Oregon et il le fait la deuxième année, la troisième année, et s'il surpit une quatrième année. Il remonte le courant pour retourner à l'endroit où il est né. Et il monte en remontant le courant. Et il dit, houhou, je suis allé au Japon 4 fois. Et ils se reproduisent là-haut. Ils ont une navigation extraordinaire. Les papillons, les insectes, les oiseaux, les poissons, tout sur la terre, sauf l'homme. Le bœuf connaît son maître. Mais mon peuple ne me connaît pas. Leur tête est malade. Il y a des blessures dans leur âme. Ils parlent jour et nuit de ces choses et il n'y a pas d'amour là. Mais Jésus est venu pour changer ça. Et vous l'avez compris. Ça vous appartient, vous le savez. Vous savez que c'est en vous. Vous savez que Jésus est en vous. Vous savez cela. Il y a un témoignage de l'Esprit. Vous connaissez ces messages qui viennent de ce livre parce qu'ils nous aident à avoir une vie qui a du sens. Vous pensez à des missionnaires qui vivent loin dans un pays du tiers-monde et vous vous dites, waouh, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils peuvent faire ça? Vous ne connaissez pas le secret. Quand Christ est avec vous et que vous travaillez dans un pays du tiers-monde, vous marchez dans les traces de Jésus avec une vie qui a du sens. Ça vous a été communiqué par Jésus-Christ chaque jour. Mais attendez une minute. Est-ce que ce n'est pas possible de vivre comme ça dans le monde occidental? Est-ce qu'on ne peut pas faire attention à ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas être sage dans les décisions qu'on prend? Est-ce qu'on peut se renier soi-même? J'ai demandé à ma secrétaire de trouver les lois des Boy Scouts, parce qu'autrefois j'étais Boy Scout. Et aujourd'hui, on n'entend plus ces mots-là. Un scout est digne de confiance. Un petit garçon dans son uniforme, il regarde son dirigeant et il dit ce serment. Un scout est digne de confiance, loyal, courtois, bon, heureux, brave, propre, et il a de la révérence. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société? On trompe nos jeunes en ne leur donnant aucune discipline, aucune direction, en ne les guidant pas dans des choses qui ont du sens. Si un petit garçon dit « je suis une fille » et que les dirigeants de notre pays disent « très bien, très bien, très bien, tu es très honnête, tu es très transparent », ils sont fous et ils sont en train de tromper cet enfant. Et ils produisent des gens malades. Et on est responsable de dire quelque chose à ce sujet. Et je ne vais pas m'excuser de ce que je dis au pupitre. Peu m'importe le fait d'être correct politiquement. Peu importe le discours politiquement correct. C'est dans toutes les cultures. On a une responsabilité de communiquer ce qui a du sens pour les gens. Ce que c'est que l'amour. Et ensuite, vous avez une famille et c'est dur. C'est dur d'élever des enfants. C'est dur de rester ensemble. C'est dur d'élever des enfants. C'est dur de beaucoup de façons. Mais si je peux avoir une vie simple, une qui a du sens, alors je vais communiquer à mes enfants ce qui a du sens. Dieu a du sens pour moi. Pour être honnête, c'est aussi quelque chose qui a du sens. Se soucier des autres, se soucier de vous, se soucier de votre maman, c'est important. Pardonner, aimer ensemble, croire, être dans une église qui a de la mission, qui va au-delà de notre vie, et une mission qui est plus grande que nous, qui est basée sur la puissance de Christ. Verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Combien de paroles Jésus nous a données? Jour et nuit, pendant 3 ans. Jour et nuit, il a donné des paroles. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ses disciples? Est-ce qu'ils sont retournés à leur ancienne vie? Non, il avait besoin d'eux. Il les a unis. parce qu'ils avaient fait partie d'un programme intensif. Et beaucoup des gens ici sont dans un programme intensif. Certains ne peuvent pas le faire à cause de leur famille, de leur travail ou d'autres responsabilités, mais il y en a quelques-uns qui veulent un programme intensif où ils peuvent jour et nuit recevoir des paroles que nous découvrons, que nous trouvons, que Dieu nous a données à travers Christ. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sortie d'auprès de toi, et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Juste un petit truc en tant que missionnaire. J'ai été avec d'autres missionnaires sur le champ missionnaire, et ils ne donnent pas tant de paroles que ça aux gens. Ils rencontrent les gens, et ils investissent dans la vie des gens. Mais je veux juste qu'on élève la barre un petit peu. Si vous êtes dans un pays étranger et que vous servez, assurez-vous de autant que possible de donner des paroles de vie aux gens, de les aider, parce que certains voudront un programme intensif pour recevoir ces paroles. On est une église où il y a des familles, et on est très heureux quand les familles font partie de nous. Et il y a beaucoup de phases différentes qu'on traverse dans la vie. Pas de doute à ce sujet. Mais ce qu'il dit ici, c'est « je leur ai donné des paroles ». Et ça les a changés. Verset 8, il est dit « ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi. Je fais des demandes pour eux », verset 9. « Je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde. Et ceux-ci sont dans le monde, mais Jésus revient. Quand est-ce que tu reviens, Seigneur? Reviens. J'ai pensé à une chose aujourd'hui. Ça va choquer certains d'entre vous, mais c'est pas grave. Vous allez vous en remettre. Vous aurez besoin de quelques jours de thérapie, mais vous allez vous en remettre. On dit « Jésus est mort il y a 2000 ans sur la croix à Jérusalem ». Est-ce que vous pouvez imaginer un chrétien qui dit « Jésus est mort il y a 8000 ans sur la croix à Jérusalem ». Ça voudrait dire qu'il nous reste encore 6000 ans d'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est possible? Personne ne sait le jour ou l'heure. Je ne sais pas quand est-ce qu'il revient. Je suis sûr que les chrétiens du premier siècle pensaient qu'il allait revenir tout de suite de leur temps. Mais il y avait encore 2000 ans. Ça ne me pose aucun problème de penser comme ça, parce que je sais qu'il revient et que son temps est parfait. Personnellement, je pense que c'est très bientôt. Et à propos, quand on est rempli de l'Esprit, on doit veiller et prier, comme s'il arrivait là maintenant tout de suite. Et chaque génération remplie de l'Esprit a eu ce sentiment d'urgence, ce sentiment que ça allait arriver bientôt. Mais j'essaye de dire quelque chose d'autre à ce sujet. Seigneur, ce n'est pas un problème pour moi, ton temps. Nous avons reçu ce dont nous avions besoin. Nous avons reçu un message qui a du sens, un message d'amour et de vérité dans nos cœurs. On s'aime les uns les autres. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on pourrait vivre comme ça pendant 1000 ans. J'imagine la convention 3019. Convention à Baltimore, 3019. Vous savez, un jour avec le Seigneur, c'est comme 1000 ans, n'est-ce pas? Un jour est comme 1000 ans. Et voilà ce qu'on dit. Le monde ne comprendra jamais ça. Et j'en suis tellement désolée. Ils sont à la droite de la liste, là, sur le côté droit. Ils sont aveuglés par leur orgueil, par leur cœur froid, par leur égoïsme. Et c'est tragique, c'est triste, c'est choquant. Incroyable. Les perdus. Incroyable. Pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé? Pourquoi le Dieu de grâce vous a-t-il appelé? Pourquoi Dieu vous a-t-il visité? Pourquoi est-ce que vous avez reçu cette faim? Pourquoi est-ce que vous voulez aller aux réunions? Pourquoi est-ce que tu n'es pas mort avant d'arriver à la réunion? pourquoi tu as reçu le message et tu as été convaincu et persuadé, tu as cru et tu as été régénéré et sauvé. Nous sommes choisis, élus. Nous n'avons pas de réponse à part la grande grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui nous a été donnée. Dieu nous a donné son Fils et Dieu nous parle en disant, si j'ai fait tout ça pour toi, si je t'ai donné une vie qui a du sens, alors tu as une vie d'amour. Et le résultat de ça, c'est que tu vas sentir dans ton esprit la joie. Tu vas avoir de l'assurance, du sens dans ta vie. Parce que ta vie tout entière est en Dieu. Un jour, nous le verrons, peut-être très bientôt. Nous irons là. Terminons verset 11. Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Chaque génération de chrétiens a été dans le monde. Et vous savez, les portes de l'enfer ne peuvent pas triompher de l'Église. Ils essayent, ils le font disparaître là, mais ça reprend ailleurs. Et le diable revient là, il essaye de s'en débarrasser et ça réapparaît à deux autres endroits. Il le détruit au Japon et ça apparaît au Mexique. Il le détruit au Mexique, ça apparaît en Chine. Il aveugle les yeux des gens à New York et ça réapparaît là en Mandchourie, en Chine, en Corée du Sud. Et maintenant, nos prières sont pour le Japon. Dieu est à l'œuvre, il sauve. Les portes de l'enfer ne pourront pas l'arrêter. Et Jésus dit, « Moi, je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je viens à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Côté gauche, colonne de gauche, l'unité. Il supporte tout, l'unité. J'ai un problème avec toi, mais je peux endurer, je peux supporter. J'ai quelques années, je peux. C'est pas grave, ça va s'arranger. 6 ans plus tard, ça s'arrange. T'inquiète pas, je suis pas pressé, parce que Dieu est amour. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme qui a été mariée 50 ans, elle a eu son anniversaire, et elle a dit à son anniversaire que pendant son mariage, il y a eu une période où elle a haï son mari. Elle l'a haï tellement qu'elle ne pouvait même plus le regarder. Et elle a dit, ça a duré 6 ans. Et puis elle s'est remise à l'aimer. Elle lui a pardonné. Elle a commencé à l'aimer. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui dans le monde dans lequel on est quand on hait son mari? On va au tribunal, on signe un papier et hop, c'est fini. Mais est-ce que ça a du sens? Pastor Lane m'a dit un jour, j'ai jamais vu quelqu'un qui vient de signer ses papiers de divorce et qui court en disant « Ouais !» C'est plutôt « Ok, ça y est, c'est fait. » Je ne sais pas si j'ai eu raison ou non, mais c'est fait. Je pouvais juste plus le supporter. Je pouvais pas y arriver. Je pouvais plus le regarder. Je pouvais plus être avec lui. Et donc j'ai fait ça. Je sais pas. Combien de temps avons-nous enduré? Les missionnaires, il y a 100 ans, partaient et ils partaient pour toujours, ils revenaient jamais. Parfois, ils vivaient des années et des années, espérant un jour revenir à la maison, aimant la maison, mais ils aimaient ce qu'ils faisaient. On l'espère, on ne sait pas. Mais on sait que l'amour peut endurer longtemps. Nos églises, on peut être ensemble pendant longtemps. Deuxièmement, être bon, être gentil, avoir des paroles gentilles, une attitude gentille. Faire preuve de gentillesse. Pourquoi se disputer? Pourquoi se battre? Pourquoi provoquer les gens? Ça, ce n'est pas de l'amour. La gentillesse. Troisièmement, se réjouir de la vérité, de la doctrine. Vraiment, de temps en temps, se dire juste « Alléluia, la vérité, le pardon, supporter tout, tout croire tout, espérer tout, tout endurer, l'amour ne périt jamais. » Ça, c'est Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant que quelqu'un ait de la joie, c'est parce qu'ils ont trouvé l'amour. Ce n'est pas étonnant que les choses peuvent marcher, puissent marcher et qu'on puisse se trouver en train de provoquer la paix, de créer la paix. Jésus a dit, afin qu'ils soient un, comme nous. Comme le Père et moi, nous sommes un, ils sont un. Ça, c'est le standard très élevé, au-dessus de ma capacité et de la vôtre. Mais on peut penser à ces choses et croire que Dieu nous les a données. Et je crois que quand on aura été ensemble pendant des dizaines d'années, on peut résoudre nos problèmes, prier les uns pour les autres, être très patient, très gentil, très encourageant et aussi se mettre les uns les autres au défi. Quand vous entendez quelque chose et que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous le prenez pour vous avec amour et vous y pensez. Parce que peut-être le prédicateur a raison et c'est vous qui vous trompez. Et d'un autre côté, il peut aussi se tromper. Et si je me trompe, parlons-en et voyons ce qui est juste. Mais ne soyez pas moins que la personne merveilleuse que Dieu a voulu que vous soyez. Soyez patient avec vous-même. Pardonnez-vous à vous-même. Apprenez ce que c'est que la grâce. Montrons la grâce les uns aux autres tout le temps. Beaucoup de grâce et beaucoup de joie. La joie, ça fait beaucoup dans une église. Je suis tellement fière de Dieu dans l'église. Parce que je trouve que cette semaine a été une semaine de joie, une joie qu'on a vraiment, parce que le Fils de Dieu nous l'a donnée. C'est Dieu qui est avec nous. Et c'est ça qui nous a donné, c'est lui qui nous a donné cette semaine. C'est le résultat de l'humilité, du fait d'écouter les Écritures. L'humilité pour obéir à ce que Dieu dit. L'humilité pour faire confiance. La jalousie fait toujours partie de notre vie, de notre chair. Et toutes les choses qui se passent dans notre chair, on sait ça, ce que c'est que d'être un enfant. Mais mettons de côté les choses enfantines et apprenons une voie plus excellente, plus élevée. Et œuvrons les uns avec les autres. Aimons-nous les uns les autres, soucions-nous les uns les autres et on va voir de grandes choses se produire. Il y a des gens qui vont venir dans notre église et qui vont dire « Pourquoi y a-t-il un esprit d'amour ici? Pourquoi est-ce qu'il y a de la sagesse ici? J'aime ces gens. Je ne sais pas, mais ça a l'air réel. Je ne sais pas ce que c'est, mais il se passe quelque chose dans cette église. Et j'ai besoin de ça. » Et on a ça. Ok, amen. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, le diable est un grand menteur parce qu'il dit qu'on peut vivre sa vie sans Dieu. Et nous, on dit ce soir, il n'y a aucun moyen de trouver une vie qui a du sens. On ne peut pas trouver la joie, on ne peut pas trouver l'amour sans Dieu. Mais à cause de Dieu, nous avons trouvé une nouvelle vie. S'il vous plaît, venez à Jésus aujourd'hui. S'il vous plaît, venez à Jésus. Dans la Nouvelle-Orléans, à Houston, à Miami, à Las Vegas, à Chicago, à Nashville, à Greenfield, à Pittsburgh, à Carlisle, à Rome, à Utica, à Malte, à Montréal, à Toronto, dans toutes ces grandes villes, dans tous ces endroits. Amenez des âmes dans les églises. donner des messages qui permettent de qu'il puisse y avoir des saluts. Si vous vous approchez de Jésus ce soir, dites dans votre cœur, je crois Jésus. Dites-lui, je crois en toi. Et si vous croyez en lui, alors vous êtes né de l'Esprit, un enfant de Dieu. Dieu ne vous laissera jamais. Et tout ce qu'on a dit ce soir en Jean 17 est pour vous. Au nom de Jésus. Amen.